Vous écoutez Lille Info sur Radio Campus 106,6 FM, comme chaque mercredi entre 17h30 et 18h. Aujourd'hui, eh bien, nous allons parler d'une exposition qui se passe à l'Espace Culture avec Antoine Matrillon. Antoine Matrillon, bonjour.
Bonjour.
Donc, c'est l'année de la chimie en ce moment. Ça se termine peut-être, mais enfin, on part en année universitaire, je pense.
Non, c'est l'année 2011. Donc, c'est, effectivement, ça va bientôt se terminer. Mais l'année 2012 sera l'année de l'énergie.
D'accord.
Donc, on restera un peu sur la même thématique.
Donc, cette année a été l'occasion de multiples, on va dire, activités, présentations, colloques, débats, conférences, expositions. On a eu l'occasion déjà d'en parler, hein, d'une certaine partie. On va parler aujourd'hui de deux expositions qui sont présentées dans le même lieu, l'espace culture de l'Université Lille. Ces deux expositions ont un thème commun, on va dire, c'est bien sûr la chimie, mais au-delà de ça, l'une parle plutôt de la saga de la chimie dans le nord de la France, donc le titre c'est « De l'or noir à l'or vert ». Et la seconde présente des hommes illustres, des chimistes.
Tout à fait.
Donc voilà, ces deux présentations, comment d'abord elles ont été conçues, elles ont été, j'allais dire, mêlées, sinon emmêlées, pour montrer qu'il y a un lien de l'un à l'autre forcément, et puis présenter, mettre en valeur, dans le cadre aussi d'une, on va dire, scénographie, mise en perspective avec des décors qui sont très intéressants que tu peux peut-être nous présenter.
Alors le point de départ de réflexion par rapport à cette discipline, la chimie, c'est qu'elle a cette spécificité par rapport aux autres disciplines scientifiques ou universitaires, c'est qu'elle est extrêmement liée dans l'histoire régionale à l'activité industrielle. Et il nous semblait impossible de parler de la chimie universitaire, académique, sans parler de l'industrie chimique. Et notre point de départ de travail, ça a été celui-là. Après, on a évidemment cherché les hommes, quels sont les acteurs de cette saga. Et il est apparu que, toujours dans ce même esprit, bah, ces hommes, qu'ils soient scientifiques ou industriels, avaient souvent un pied dans un monde et un pied dans l'autre. Donc les deux mondes, l'industrie et l'université, se mélangent intimement quand on parle de chimie, en tout cas dans notre région.
Alors Antoine Matrillon, la région Nord-Pas-de-Calais a été riche d'industrie d'une manière globale. La chimie, c'est une part importante de cette industrie. Est-ce qu'on peut citer des activités particulières et des grands hommes qui ont collaboré à cette industrie florissante il y a un moment et qui existe encore? On peut peut-être justement évoquer cet aspect également.
Alors il y a un nom peut-être qui va à la fois résumer l'homme et l'industrie, c'est Kuhlmann. Kuhlmann, c'est le nom d'un homme, Frédéric Kuhlmann, à la fois justement scientifique, universitaire, mais aussi industriel à succès, qui fonde les industries Kuhlmann, qui existent toujours, même si elles n'existent plus sous ce nom, à partir des années 1820, qui sont parmi les plus importantes de France en matière de grande industrie chimique. Donc qu'est-ce qu'on appelle la grande industrie chimique? Ce sont la production de produits qui étaient très utiles aux autres domaines industriels. Donc on va parler de l'ammoniac, de l'acide sulfurique. Alors des noms qui nous font peut-être un peu peur aussi, parce que des produits dangereux, mais qui étaient utilisés par les autres grands secteurs de l'industrie de la région, comme le textile. Le textile avait besoin d'ammoniac et d'acide sulfurique pour blanchir, teindre, traiter ces tissus qui étaient fabriqués dans les usines textiles. L'autre grand secteur, évidemment, de la région en matière de chimie, c'est ce qu'on appelle la carbochimie, historiquement. Pourquoi ? Parce qu'on a du charbon, et la chimie de ce charbon, et donc l'utilisation qu'on va faire du charbon pour produire de l'énergie ou d'autres matières, ça a été un grand domaine de recherche à la fois des scientifiques universitaires, mais aussi des industriels.
Voilà, donc on comprend bien le lien entre une industrie lourde et une recherche qui s'est peut-être un peu spécialisée à un moment donné.
Oui, effectivement, la recherche venant aider l'industrie, l'appuyer, donc sur les domaines dont j'ai parlé, la carbochimie, mais aussi sur des domaines comme la chimie agricole, par exemple, qui est un autre grand domaine d'études, et un grand domaine industriel de la région, l'agriculture, sur son versant plus industrie agroalimentaire. Aujourd'hui, ça va être l'utilisation, par exemple, des biomatériaux pour fabriquer des plastiques à partir d'amidon ou des biocarburants à partir de ressources végétales. On peut parler aussi de la métallurgie, évidemment, qui a été un autre très grand secteur industriel de la région. Si on peut citer les noms de Metal Europe, Usinor, aujourd'hui ArcelorMittal, je pense que ça parle aux gens. Et les universitaires lillois contribuaient à l'amélioration de ce secteur industriel aussi par la chimie. La chimie étudie la métallurgie.
Alors c'est vrai que quand on dit ça parle aux gens, ça résonne. Ça ne résonne pas forcément de manière très positive, pour des raisons d'ailleurs diverses, pour ces cas que vous citez. Est-ce qu'on peut avoir une idée, parallèlement à ces grands industriels de la chimie, est-ce qu'il y a eu des grands chercheurs dans nos universités?
Alors oui, évidemment. Alors, j'ai parlé de Kuhlmann, qui était un universitaire, mais qui n'a pas exercé à l'université. Par contre, le premier doyen et premier titulaire de la chaire de chimie en 1854, c'est Louis Pasteur. Donc ça peut paraître étonnant, parce qu'on connaît plutôt Pasteur comme un biologiste. Et en fait, non, c'était bien au départ un chimiste. Et c'est d'ailleurs à Lille qu'il est devenu, entre guillemets, biologiste. Puisque ses études chimiques portaient sur des éléments de chimie agricole, des éléments biologiques. À l'époque, on pensait que la réaction de la distillation du sucre en alcool était une réaction chimique. Donc Pasteur étudie ça comme un chimiste, et il se rend compte que c'est une réaction biochimique dû à un organisme, la levure, et donc il devient biologiste. Alors il y a d'autres successeurs, je vais peut-être pas rentrer dans tous les détails, mais des gens comme Violette ou Buisine qui succèdent à Pasteur, Violette étant également spécialisée en chimie agricole, Buisine étant le premier à introduire la chimie organique Donc la chimie organique, c'est la chimie du carbone. Donc c'est le précurseur de la carbochimie. On a aussi les personnages de Paul Pascal et Georges Chaudron, qui eux sont les premiers à faire de la métallurgie, ce dont j'ai parlé à l'instant. Et par la suite, on a des gens comme Marie-Louise Delwall, par exemple, qui est intéressante, j'insiste bien sur le E, puisque c'est la seule femme de notre galerie de chimistes, qui est décédée dans des conditions dramatiques d'ailleurs, à 56 ans en 1962, et qui elle a introduit l'utilisation de ce qu'on appelle l'analyse par effet Raman. Bon, c'est assez compliqué, mais c'est une méthode d'analyse chimique très innovante. Alors aujourd'hui, et plus proche de nous, on pourrait parler de gens comme Henri Lefebvre, qui a également été doyen de la faculté des sciences dans les années 60, André Michel et Jean-Eugène Germain, qui sont des scientifiques qui sont passés à Lille et qui sont décédés très récemment. Et ce qui est intéressant par rapport à ces personnages aussi, c'est que ce sont des personnages qui parlent encore à des enseignants actuels, puisque eux-mêmes les ont eus comme enseignants. Et c'est aussi honorable de rendre hommage à ces gens-là.
Alors Antoine Matrion, donc cette chimie lourde et cette recherche liée à cette industrie a cédé la place à d'autres formes peut-être. Il y a encore ces formes traditionnelles, mais d'autres qui sont venues se greffer et qui ont renouvelé, sinon l'air, du moins l'activité économique.
La chimie, ça reste une discipline qui est très liée aux demandes sociétales, aux demandes de la société. Les noms que j'ai cités tout à l'heure n'ont pas des résonances très positives. Elles ont eu des effets aussi négatifs sur l'environnement. Je pense à Metal Europe, quand l'usine a fermé dans les conditions dramatiques qu'on connaît. Elle a laissé aussi derrière elle un territoire, un no man's land pollué. Et c'est aussi de la faute de la chimie. Donc aujourd'hui, la chimie a été objet aussi de renouveler ses thématiques de recherche pour s'adapter justement à ces demandes sociétales. C'est ce qu'on appelle, nous, l'or vert dans cette exposition. Donc l'or noir étant plutôt le charbon, et l'or vert, c'est cette ressource végétale qui devient un sujet d'étude pour les chimistes et qui va devenir le support des transformations chimiques à notre profit, donc les biocarburants, les biomatériaux, etc., etc.
Donc un sujet d'étude, un sujet d'espoir aussi pour la région.
Voilà, exactement, puisque la chimie, du coup, reste quand même toujours un grand domaine d'activité industrielle dans notre région, contrairement à d'autres qui ont quasiment disparu, comme le textile ou le charbon. Cette chimie verte reste un domaine de pointe dans lequel la région excelle, à la fois sous son aspect industriel et sur son aspect universitaire, puisque ça fait partie des domaines de recherche des chimistes actuels.
Alors parlons justement de cette recherche à Lille et de quel est l'organisme qui forme et qui cherche dans ce domaine.
Oui, alors évidemment, la mission des universités, ce n'est pas seulement la recherche, c'est également la formation. Et on a la chance d'avoir une école nationale supérieure de chimie de Lille, qui forme donc des ingénieurs chimistes. Il n'y en a pas beaucoup en France. Son histoire est assez ancienne, puisque ses origines remontent aux années 1870. À partir de ce moment-là, l'université est habilitée à délivrer le diplôme d'ingénieur chimiste. Ce n'est pas un hasard si on fait cette formation dans la région, puisqu'on a une demande aussi des industries pour avoir du personnel formé et de qualité. Et moi, je sais que, par exemple, j'ai été en contact avec des anciens diplômés de cette école d'ingénieurs qui sont aujourd'hui exerçants, alors, pour le cas présent, à ArcelorMittal, par exemple. Voilà. Ce monsieur qui nous a d'ailleurs prêté quelques ouvrages pour l'exposition exerce chez ArcelorMittal en Afrique du Sud.
Alors, c'est vrai que quand on voit les résultats de Lille 1 dans la presse, on s'aperçoit que Lille 1 tient un peu le haut du pavé dans l'intégration des étudiants, peut-être même des doctorants, dans le monde professionnel.
C'est tout à fait vrai. Alors là, on est plus dans l'intégration des ingénieurs, et des ingénieurs d'une école qui reste conventionnée avec Lille 1, mais qui forme des ingénieurs chimistes. Donc c'est pas forcément des doctorants ni des diplômés de Lille 1. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a toujours eu une demande régionale pour employer ces ingénieurs-là, que ce soit dans les domaines que j'ai cités, Donc la métallurgie, le textile, la carbochimie, etc., etc.
Donc ces ingénieurs du passé qui ont des noms célèbres, du moins dans le milieu professionnel, est-ce que vous en voyez poindre qui vont le devenir dans très peu de temps?
Alors je ne me suis pas encore renseigné sur la question, il faudrait poser la question aux enseignants qui essaient de détecter les meilleurs éléments dans leur promotion d'ingénieur.
Donc les meilleurs éléments, c'est ceux qui s'adaptent aux nouvelles circonstances, aux nouveaux cadres, d'études, aux nouveaux cadres économiques, au niveau... là, on a parlé de l'industrie verte, hein, puisque...
Je dirais à la demande, tout simplement.
À la demande, voilà.
Voilà. Et c'est peut-être aussi à l'école de chimie de faire évoluer aussi son type de formation de ses ingénieurs à ces nouvelles demandes.
Voilà.
Il est évident qu'aujourd'hui, on ne va plus employer un ingénieur dans une coquerie pour distiller du charbon.
Antoine Matrion, on va revenir à l'exposition qu'on peut voir dès à présent. Hein, depuis lundi, c'était le vernissage.
Oui, c'est ça, oui.
Et donc une exposition qui est à la fois belle et riche d'informations. Donc belle parce qu'elle a été confiée à quelqu'un qui a du style. On va peut-être en parler.
Alors c'est Pierre Bourris, qui est connu d'ailleurs à l'Université de Lille, puisqu'il a exercé comme graphiste de l'université pendant un certain nombre d'années. Maintenant, il travaille de manière indépendante. Et je lui ai laissé carte blanche pour créer des choses sur cette exposition, ce qui fait que, en tout cas, visuellement, il a imaginé pas mal de choses intéressantes. Je dirais pas que visuellement, parce qu'il a souhaité aussi introduire une dimension sonore, ce qui est une très bonne idée, parce que la chimie, c'est une discipline qui parle aux oreilles aussi.
Mmh. Voilà. Donc c'est à la fois un environnement graphique qui met en valeur, mais qui donne un sens de visite, ou du moins une dynamique.
Mmh. Il essaie de représenter de manière abstraite ce que pouvait être la chimie dans nos imaginaires. Et il est vrai que, par exemple, tout ce qui touche à la verrerie, aux cornues, aux tubes à essai, c'est un peu comme ça qu'on imagine la chimie dans nos esprits. Et du coup, il a travaillé graphiquement autour de ces éléments-là, et ce qui dessine un parcours au sein de la salle d'exposition, donc un parcours qui est plutôt chronologique, tel que je l'ai décrit précédemment, et nous emmène effectivement à travers cette saga de la chimie, puis ensuite vers la galerie des chimistes.
Alors, on peut signaler des objets qui sont des objets scientifiques, des objets qui ont servi à la recherche, qui sont bien présents, parce que on peut mettre ça en lien également avec ce patrimoine de Lille. Mmh.
Alors y a un patrimoine qui est très précieux qui est présenté. C'est évidemment tous les objets de Pasteur. J'en ai parlé tout à l'heure. Pasteur, premier titulaire de la chaire de chimie, a utilisé des instruments scientifiques pour faire la découverte dont j'ai parlé. Donc, parmi ceux-ci, son microscope et sa balance. Donc ces objets sont exposés. On a également exposé beaucoup d'objets de verrerie, justement, ce dont je parlais à l'instant. Des cornues, distillateurs, beaucoup d'éléments qui peuvent nous sembler un petit peu muets. Donc nous, on a essayé de les faire un peu parler dans cette exposition. Et autre objet qu'on a exposé sont les produits. C'est important quand on parle de chimie de voir ce qu'on produit. Donc on a notamment montré un bout de charbon, de l'anthracite, mais aussi les produits issus du travail chimique sur ce charbon. Par exemple du coke, de l'huile de houille ou de la bakélite. Voilà, tout ça, c'est des produits de la chimie du charbon.
Donc tous ces objets, c'est même la statue. Hein,
oui, il y a un buste de Frédéric Kuhlmann, ça, ah, oui, me présenté.
Sont dans un environnement graphique, mais aussi lumineux, qui est intéressant. Enfin, il y a une belle lumière.
Oui, oui. On s'est rendu compte que la pénombre était quelque chose qui correspondait bien à l'image de la chimie. Alors, on imagine bien cette espèce de laboratoire un peu mystérieux. Voilà, donc on a fait la pénombre et en contrepartie, on a éclairé avec des lumières assez colorées. Puisque la chimie, ça, c'est aussi cette dimension de couleur. Alors au départ, je dois avouer qu'on voulait même mettre un petit peu de fumée dans la salle, mais pour des raisons de sécurité, ça n'a pas été possible, mais ça aurait bien rendu l'ambiance qu'on voulait mettre dans cette salle d'exposition.
Alors, dans la grande salle, parce qu'il y a le couloir où il y a des choses qui sont présentées, dans la grande salle, tout au fond, il y a, on va dire, une partie plus audiovisuelle.
En fait, il y a un diaporama de photos qui nous a été confié par l'Université Lille 3, donc le laboratoire d'histoire de l'Université Lille 3, plus précisément, qui fait un travail de son côté de récupération de documents historiques sur l'histoire industrielle de la région. Et ce qui s'est passé avec ces photos, c'est qu'au moment où les grandes usines Kuhlmann ont fermé, les anciens personnels de ces usines se sont inquiétés du futur du patrimoine de ces usines et ils ont fait un très très gros travail de récupération des photos qu'ils ont confiées à ce laboratoire de l'Université Lille 3. Et ça nous permet de présenter un diaporama d'images de ces usines disparues. Et c'est important pour nous, en plus on y ajoutait une ambiance sonore, parce que travailler dans ces usines, c'était aussi dur, sans doute, et dangereux.
Bien sûr.
Et donc avoir reconstitué par l'image et par le son cette ambiance, j'allais dire sans les odeurs, ni les produits eux-mêmes, parce que ça aurait été dangereux, c'était important, parce que on peut penser par exemple que des jeunes d'aujourd'hui ne se rendent pas bien compte de la dureté de ces activités.
Oui, de la dangerosité.
De la dangerosité,
un ami
bien sûr.
Qui est mort, cancer de l'amiante, je veux dire, je peux même dire où. On fera peut-être une émission spécifique là-dessus.
Mais c'est ce qui prouve aussi que c'est une histoire qui est encore à écrire. Voilà.
Voilà. Donc, j'ai vu tout à l'heure un groupe qui participait donc à cette visite et vous serviez de guide. Mm-hmm. Donc, on peut peut-être dire un petit peu comment ça se passe pour les groupes. Quels sont les groupes que vous pouvez accueillir? Quel type de groupe?
Alors, là, c'était des lycéens. Les groupes qu'on peut accueillir sont, on dirait, à partir de la quatrième, peut-être. Alors, les visites guidées sont possibles durant le temps de l'exposition. Il suffit de me contacter. On n'est pas obligé d'être en groupe, ça peut se faire aussi de manière individuelle. Voilà. Les coordonnées sont sur la page de Radio Campus, je pense.
Tout à fait, et aussi sur les documents de l'université,
parce que
l'université décrit précisément l'exposition. Voilà, Antoine Matrillon, donc on donne rendez-vous au public pour cette exposition qui va nous amener jusqu'à quel moment?
Alors, elle s'arrête aux vacances, le 16 décembre. Par contre, il est prévu qu'elle circule dans d'autres universités de la région en 2012. Donc,
d'accord.
Ce n'est que le début d'un long processus. Voilà.
Donc, on peut imaginer que beaucoup de responsables des universités de la région vont venir la voir ici.
Qui viendront la voir ici et aussi ailleurs. Voilà.
Très bien. Merci Antoine Matrillon et puis bonne continuation.
Merci.
Pour ces travaux et ces présentations très intéressantes qui font partie donc de la mise en valeur de notre patrimoine régional. Thank you.